OK, si vous voulez me suivre, on va aller dans. On va ce soir continuer notre série sur la sanctification. Ce soir, on va regarder la conduite de Lot, et qui est dans les Écritures, en fait, un avertissement. On lit, par exemple, dans Genèse au chapitre 19, les versets 15 et 16. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant: Lève-toi! Prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Alors, les Saintes Écritures, on l'a vu là un peu la semaine dernière, on a vu l'exemple de Moïse. Des fois, les Écritures nous donnent des exemples à imiter. Puis des fois, les Écritures nous présentent des exemples de choses, de personnes dont on doit ne pas agir comme eux. Alors, les Écritures contiennent parfois des exemples à imiter, mais parfois aussi des avertissements. C'est comme des signaux lumineux, des phares. C'est comme si les Écritures nous disaient « attention, ça peut arriver à toi aussi ». Alors, le comportement de Lot est du type qu'il nous faut éviter à cause des très graves dangers qu'il comporte. On va regarder ça éventuellement un petit peu plus loin dans la leçon. Nous ne comprendrons jamais assez le sens des mots du verset 16 et comme il tardait. Il y a toujours un danger de tarder quand le Seigneur te demande. Là, c'était le Seigneur qui le demandait dans le fond, mais il le demandait par l'intermédiaire des anges, mais c'était quand même le Seigneur qui parlait. Et quand tu tardes à accomplir la volonté de Dieu, il y a toujours des dangers qui se rattachent à ça. Alors, qui était cet homme qui tardait? On le sait, c'était le neveu du fidèle Abraham. Et quand tarda-t-il? Il le fit le matin même où Dieu allait détruire Sodome. Et où tarda-t-il? Il le fit à l'intérieur des murs de Sodome. Et devant qui tarda-t-il? Il le fit devant les yeux des deux anges qui furent envoyés pour le faire sortir de cette ville corrompue. Ces mots sont solennels et rassis de sens pour nous. Ils devraient sonner comme une trompette à nous qui professons de croire. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même ne nous a-t-il pas commandé de nous rappeler la femme de Lot? Luc 17, verset 32. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit « Souvenez-vous de la femme de Lot. » Alors Lot avait sûrement été un mauvais témoignage au cours de toute sa vie parce que même au moment où le Seigneur voulait le libérer, sa femme n'a pas suivi, sa femme n'a pas obéi. Et le Seigneur nous dit « Souvenez-vous de la femme de Lot parce que ce sont des choses dangereuses. » Alors dans cette leçon, on va essayer de démontrer qui était Lot. Ce que le texte déjà cité nous apprend de lui, qu'on a vu tout à l'heure dans Genèse, les raisons pour lesquelles il tardait, et quatrièmement, les conséquences désastreuses de son comportement. Alors, on va attirer en même temps spécialement l'attention de ceux qui professent être chrétiens, qui désirent se sanctifier, mais qui tardent à s'engager sur ce chemin. Établissons solidement ce principe dans nos vies si nous voulons sérieusement nous engager sur le chemin de la sanctification, nous ne devons pas tarder. Alors, quand Dieu nous commande de nous sanctifier, je commencerai la semaine prochaine, commencerai l'année prochaine, bien si tu fais ça, première nouvelle que tu vas savoir, ta vie va être finie puis tu n'auras rien fait du tout. Alors, il ne faut pas tarder quand on entend la voix de Dieu qui nous commande quelque chose. Alors, le premier point qu'on va regarder, c'est qui était Lot. Alors, on serait porté à dire de Lot qu'il était un homme mauvais, un homme méchant, une personne qui n'avait pas reçu le salut, un enfant du monde. On serait porté à dire ça, d'après tout son comportement, si on regarde sa vie dans son ensemble. Pourtant, rien de cela était vrai. Lot était un véritable croyant, une personne authentiquement convertie, un véritable enfant de Dieu, une âme justifiée, un homme juste. On ne peut pas voir ça d'après son comportement Si on sait qu'il était un homme juste, c'est parce que les Écritures elles-mêmes, dans le Nouveau Testament, nous en parlent comme d'un homme juste. Alors, ce que la leçon est en train de nous apprendre, c'est que des fois, il est possible pour quelqu'un d'être un chrétien, mais il vit un petit peu tout croche, et c'est pas par son comportement qu'on voit qu'il est un enfant de Dieu. Alors, dans le cas de Lot, c'est un peu ça. Dans 2 Pierre, chapitre 2, au verset 6 à 8, ça, c'est la partie du Nouveau Testament où on apprend que Dieu, par le Saint-Esprit, nous déclare que Lot était un homme juste. 2 Pierre, chapitre 2, verset 6 à 8. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Alors, trois fois à l'intérieur de trois versets, il est mentionné qu'il était un homme juste. Alors ça, c'est le Saint-Esprit qui nous le dit. Il était un homme juste parce qu'il avait reçu la grâce de Dieu. Cependant, dans sa vie, il avait fait une multitude de choix qui étaient très mauvais et qui ont eu beaucoup de conséquences, non seulement sur sa propre vie, sur la vie de son épouse, sur la vie de ses deux filles et sur beaucoup d'autres. On va voir un peu les conséquences de ses actions. Alors, les âmes des justes sont ordinairement profondément attristés de la conduite effrénée et corrompue des pécheurs. On lit par exemple dans le psaume 119, les versets 136 et les versets 158. Ici, c'est David qui parle, il dit « Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi. » À quelque part, quand on s'arrête un petit peu à méditer au sens d'un pareil verset, « Mes yeux répandent des torrents d'eau. » Est-ce que nous, quand on regarde un peu tout le mal qui se passe autour de nous, des gens qui n'observent pas la loi, est-ce que nous, on est triste comme ça? Est-ce que ça nous est triste comme ça? Et le verset 158, « J'ai vu les infidèles et j'en ai horreur. Ils n'observent pas ta parole. » Alors, le premier point, c'est qui était Lot, on l'a vu très rapidement. Le deuxième, c'est que ce que Genèse 19:6 nous apprend de lui. Ces mots, comme il tardait, sont très révélateurs sur son état spirituel. Lot connaissait le lamentable état spirituel des gens de Sodome. Bien entendu, Sodome et Gomorre, c'était des villes complètement corrompues, livré au péché dans toutes ses formes, dont des péchés utilisent le nom de Sodome pour parler de péchés graves. Alors, Genèse, chapitre 19, les versets 12 à 14, c'est-à-dire, les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit, et il parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Regardez, ici on a un homme qui était un homme juste. Il avait deux filles. Est-ce que c'est normal que ces deux filles t'aient marié avec des gens de Sodome et Gomorre? Alors, on voit son état spirituel à lui aussi là-dedans. Il dit, et ces gens, on voit qu'eux, ils n'ont vraiment pas pris l'avertissement du Seigneur au sérieux parce qu'ils ont dit, paru plaisanter. Le beau-père fait des farces. Ils ont vu peut-être un petit peu plus tard que les farces, c'était sérieux. Alors, verset 15, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Quand t'es rendu que t'es un chrétien, il y a des anges qui sont venus qui t'avertissent que le Seigneur est sur le bord de détruire cette ville-là et qu'ils sont obligés d'insister, quelque part, ça ne va pas bien dans ta vie chrétienne. Alors, Lot était lent à comprendre, alors qu'il aurait dû être alerte et responsable. Lot savait que Dieu respecte toujours sa parole. Il avait vécu suffisamment longtemps avec Abraham pour être conscient de cela. Et malgré cela, il tardait. Lot voyait que les anges attendaient qu'il sorte de la ville avant de procéder à sa destruction. Il est à craindre que plusieurs qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ ne se comportent comme Lot. Ils rencontrent rarement les expectations de leurs pasteurs et des chrétiens les plus spirituels et les plus expérimentés. Ils croient au ciel, semblent si peu soupirer pour l'atteindre, et ils croient à l'enfer, et ils semblent si peu la craindre. Ils savent qu'ils ont peu de temps, mais ils vivent comme s'ils avaient beaucoup de temps. Ils savent qu'ils ont un combat à mener, mais ils s'y engagent si peu. Ils savent que le juge est à la porte et que la colère est à venir, est proche et qu'ils s'en préoccupent si peu. Plusieurs semblent endormis. Ces personnes causent de l'anxiété pour les chrétiens plus expérimentés et sérieux. Ils admirent ceux qui se sanctifient avec ardeur, mais semblent penser que c'est quelque chose pour les autres et que la véritable sanctification est hors de portée pour eux. Beaucoup de chrétiens oublient, là j'ai marqué volontairement avec un point d'interrogation, que la sanctification exige des sacrifices, des efforts et du déni de soi. Ils semblent peu comprendre et appliquer les commandements du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Matthieu 5, versets 29 et 30. « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la gêne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la gêne. » Matthieu 10, versets 37 et 38. Ça, c'est des paroles solennelles que le Seigneur nous dit là. On les oublie tellement rapidement. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. » Il existe des chrétiens qui ne se séparent pas assez des amusements du monde, qui conservent des amitiés douteuses, qui sont très inconstants dans l'utilisation des moyens de grâce, comme l'assistance aux soirées de prière, l'assistance au culte du dimanche, lecture de la Bible, évangélisation, communion fraternelle avec d'autres croyants, etc. Alors, ils ont un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Ce sont des gens qui ne s'engagent pas sérieusement dans les combats que tout chrétien doit mener. Lutte contre notre vieille nature et la mortification des péchés sous toutes ses formes, l'orgueil, la paresse, la sexualité non biblique, l'amour de l'argent, la colère, etc. En un mot, ce sont des frères et des sœurs de Lot spirituellement. L'action de tarder spirituellement rend malheureux le véritable chrétien. Une conscience qui tarde détruit la paix intérieure. Vous avez, comme les Écritures le disent dans Apocalypse, vous avez oublié votre premier amour. Apocalypse 2, versets 1 à 5, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Alors, on va regarder le troisième point, les raisons pour lesquelles Lot tardait. Alors, connaître, bien entendu, la racine et les causes d'une maladie, c'est vraiment le premier pas pour la découverte du remède. Alors, la première chose, la première erreur à voir dans la vie de Lot, c'est qu'il a fait un très mauvais choix alors qu'il était encore avec Abraham. Genèse, chapitre 13, versets 8 à 11. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme un pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Le choix de Lot était d'abord sensuel et irréfléchi. Il ne se soucia pas qu'il allait s'établir dans une région dominée par de très graves péchés et il se laissait aller à la facilité. Dans le fond, son péché, c'est ça, se laisser aller à la facilité. Genèse 14, versets 11 et 12. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions, ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi, avec ses biens, Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, ils s'en allèrent. Ça, c'est un chapitre 14 où les rois, il y a eu la chicane des rois. Là. Alors, rappelons-nous ça dans le choix de notre lieu de résidence. Moi, il était longtemps que je pensais qu'une personne pouvait déménager où ce qu'elle voulait dans sa vie à cause de son travail. Aujourd'hui, je n'ai vraiment plus cette conviction-là. J'ai la conviction qu'un chrétien se devrait de choisir son lieu de résidence en fonction de l'existence d'un bon lieu de culte pour lui. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas t'en ressentir plus tard, ça c'est sûr et certain. Rappelons-nous aussi cela dans le choix de notre travail. Et notre profession. Tu travailles dans un bar, mais peut-être que quand tu deviens chrétien, il y a peut-être temps que tu changes de milieu. Rappelons-nous aussi de cela dans le choix de notre conjoint de vie, si nous ne sommes pas encore mariés. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 et 15, nous dit un principe très important que beaucoup de chrétiens ont oublié dans le passé, mais cependant que la réalité les a rattrapés, et aujourd'hui, non seulement ils souffrent personnellement, mais ils font souffrir leurs conjoints, toute leur famille, et bien souvent, ça s'étend beaucoup plus loin que tout cela. Alors, ça dit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'équité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? » Autrement dit, c'est en train de te dire que si tu es en affaires, tu ne te pars pas en affaires avec un inconverti. Que si tu es un jeune homme ou une jeune femme qui veut se marier, tu ne te maries pas avec un inconverti. Parce que si tu fais ça, tu vas subir les conséquences qui vont avec. Quatrième point et dernier point, les conséquences désastreuses du comportement de Lot. Dans notre folie, on pourrait être tenté de dire « Lot était sauvé, alors il était au ciel et c'est tout ce qui importe. » Si cette pensée vous est montée au cœur, méfiez-vous. Les Saintes Écritures enseignent clairement que l'éminente sanctification et l'utilité pour le Seigneur sont deux notions très intimement reliées. Autrement dit, s'il n'y a pas un degré de sanctification, Dieu ne t'utilisera pas beaucoup. Il y a un degré, il y a un lien direct entre ton degré de sanctification et la manière dont Dieu va t'utiliser. Alors, de plus, la notion d'être vraiment heureux, avoir la paix de l'âme et celle de suivre pleinement le Seigneur marchent de façon parallèle. Voici quelques remarques sur les conséquences des mauvais choix de la vie de Lot. Alors, il ne fit, premier choix qu'il a fait, il n'a fait aucun bien parmi les habitants de Sodome. Malgré le fait que Lot demeura des années à Sodome, il ne semble pas avoir réussi à détourner des âmes du péché. Il ne semble pas avoir eu une grande influence sur les méchants qui l'entouraient. Genèse 19, versets 8 et 9. « Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme, je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. » et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Alors, son témoignage était faible et il n'était pas une lettre ouverte, comme on peut lire dans 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 2 et 3. Même si on ne parle pas beaucoup du Seigneur autour de nous, nous, notre propre comportement, notre façon d'être, notre façon d'agir, devrait être une lettre ouverte, comme des quoi les gens voient qu'on appartient au Seigneur. Verset 2 Corinthiens 3, versets 2 et 3, c'est vous, c'est Paul qui parle aux Corinthiens, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Les chrétiens vraiment sanctifiés ont du magnétisme et sont attrayants parce qu'ils reflètent la glorieuse personne de Christ. Donc, la première conséquence, c'est qu'il n'a pas fait aucun bien dans Sodome. La deuxième, c'est que Lot n'a pas aidé sa famille et ses relations à se diriger vers le ciel. Nous savons que Lot avait une épouse et 2 filles. Il est clair qu'aucun membre de sa famille n'avait la crainte de Dieu. Il ne fut pas un exemple à suivre. L'entourage est toujours plus influencé par ce qu'ils voient que par ce qu'ils entendent. Genèse chapitre 19, les versets 14 à 16 et les versets 26. Lot sortit, parla à ses gens qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gens, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Troisième conséquence d'un comportement de tardé, le témoignage que Lot laissa après sa mort fut misérable. Quand on va regarder ce point-là, je dirais que c'est un des points peut-être les plus importants. Il plaida auprès des anges pour habiter la ville de Tsoar, parce qu'il disait, laisse-moi habiter là car elle est petite, mais elle était dans la zone où le Seigneur avait décidé qu'il détruisait cette... Alors, c'était encore une autre affaire charnelle qu'il voulait encore, et ils lui ont accordé, mais regardons bien les conséquences de tout cela. Genèse 19, versets 20 à 23. « Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. » Oh, que je puisse m'y sauver! N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu n'y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Ses filles, on le sait, quand on a lu le passage, on couchait avec lui lorsqu'il s'est réfugié dans une caverne. Là, il a sorti de Tsoar parce qu'il y a eu la chienne quand le Seigneur a commencé à envoyer le torrent de feu. Il y a eu la chienne, il s'est réfugié dans une caverne avec sa fille, avec ses 2 filles. Les enfants de ses 2 filles devinrent des ennemis jurés de la nation d'Israël au cours de toute son histoire. Les Moabites et les Ammonites. Alors, est-ce que sa vie a eu des conséquences énormes, non seulement sur lui, mais sur des générations à venir? Alors, Genèse 19, versets 30 à 38, on va le lire. « Lot quitta Tsoar pour la hauteur. Il se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aînée dit à la plus jeune, « Notre père est vieux. » Il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père, et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab, c'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela le nom de Ben-Ami, c'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Puis quand vous regardez l'histoire des Ammonites et des Moabites à l'intérieur de ça, ça a été des ennemis sur plusieurs générations d'Israël. Alors, est-ce que son péché était grave de tarder? Mm-hmm. Énorme. Les Écritures ne nous donnent pas de détails sur la fin de vie de Lot. Il est possible qu'il fût parmi ceux que la Bible donne comme ayant été sauvé à travers du feu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 12 à 15, il donne il parle de ça. Alors, « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers du feu. » Hein, ça, c'est le cas de Lot. Sauvé à travers l'œuvre de Jésus-Christ, mais qui n'a pas porté très peu de fruits dans sa vie, et même ses conséquences de ses actes ont eu des répercussions énormes sur le peuple. Alors, on ne doit pas mal interpréter les leçons de la conduite de Lot. Il peut arriver qu'un croyant ait été très fidèle et très proche dans le Seigneur, sans que le Seigneur ne lui ait donné des fruits visibles. Prenons l'exemple de Noé, qui prêcha pendant 120 ans, et nul ne crut son message. Il avait pourtant fait ce que le Seigneur lui demandait. Christ lui-même ne fut pas estimé par son propre peuple, quoique on ne peut absolument pas lui rapprocher quoi que ce soit. Il peut aussi arriver que des croyants ne tardent d'aucune façon dans l'éducation de leurs enfants et qu'aucun d'eux ne soit sauvé. Le Seigneur Jésus ne fut pas cru même par ses propres frères. Nous affirmons cependant qu'il est presque impossible qu'on ne voie un lien entre les mauvais choix de Lot et le fait qu'il tarde et le fait qu'il fût non profitable pour sa famille et pour le monde qui l'entourait. Nous croyons que le Saint-Esprit veut que nous voyions ceci et que sa vie misérable nous serve d'avertissement. Trois applications. Prenons conscience que nous vivons à une époque où le nombre de ceux qui tardent et qui font de mauvais choix abonde. Sachons que ces mauvais exemples exercent une influence néfaste sur nous. Prions le Seigneur d'être assez fort pour ne pas suivre la voie du grand nombre. Une vie sans sacrifice, sans effort et sans croix. Deuxième application, cultivons la proximité avec le Seigneur. Comportons-nous comme des étrangers et des voyageurs sur la terre, Hébreux 11, 13. Que toute notre vie manifeste notre appartenance au Seigneur, l'emploi de notre temps et de notre argent, nos divertissements, notre habillement, la douceur de nos paroles et de notre caractère, notre joie, notre charité, notre patience, notre crainte de Dieu, notre haine du péché, etc. Troisième application, obéissons aux commandements que nous donnent les Saintes Écritures, 2 Pierre 1:10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Ne soyons ni paresseux ni négligents. Ne nous contentons pas d'une petite mesure de grâce, mais implorons le Seigneur de faire de nous des instruments utiles qui lui apportent honneur et gloire par nos fruits. Comme il dit dans Romains 12, 1 et 2, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Galates, chapitre 5, versets 24 et 25. « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Jérémie 3, versets 13 et 14 et 22. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Verset 22, revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos iniquités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. Les Écritures nous invitent aussi dans Hébreux, chapitre 3, verset 13, à nous exhorter les uns les autres chaque jour. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Hébreux, chapitre 10, verset 24, dernier verset. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Que notre grand Dieu soit béni, loué et adoré pour son don ineffable, la glorieuse personne de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ.